cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph le 17 juin 1987. Troisième cours.
Il y a 50 ans, toutes les décorations possibles, c'est très très bien. Mais vous restez. qui se consacre pendant un an, médecin au tiers-monde, c'est merveilleux. Ils partent fiancés, ils se marient au retour. Ça va, ça? Ils se demandent s'ils vont entrer dans la vie religieuse. Au retour, ils entrent dans la vie religieuse. Très bien. Ou ils se consacrent à Dieu sous une autre forme, peu importe. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de finalité dans l'homme. Ou c'est Dieu, ou c'est l'homme dans l'amour d'amitié. Et les amitiés vraies, en dehors du mariage, en dehors de la vie religieuse, il n'y en a pas beaucoup. Parce que le climat est très important pour une amitié. Le mariage permet l'amitié de se développer. La vie religieuse permet à l'amitié de se développer. Mais quand vous êtes seul, alors vous dites, ah, vous voyez, au sortir de, je ne sais pas, de telle ou telle école qu'on a faite, pour ne pas préciser, vous dites, on restera des amis. Désintéressé. désintéressé, comme pour éduquer. Comme pour la vie apostolique. L'œuvre ne finalise pas. L'œuvre, si importante qu'elle soit, ça ne finalise pas. C'est pour ça que si vous mettez votre finalité dans l'œuvre, vous serez malheureux. Qu'est-ce qui finalise? C'est la contemplation et l'amitié. Je crois qu'il faut être farouche là-dessus. Vous voyez, par rapport à soi. Et si on est farouche par rapport à soi, on le sera pour les autres. C'est-à-dire, on sera bons éducateurs. Autrement, vous mettez des gens dans des fausses pistes. Voie sans issue. Quand c'est de l'ordre de la route, ça va, il y a une indication. Mais dans l'ordre spirituel, voie sans issue. Il y a beaucoup de voies sans issue. Qui sont très bien, c'est, pendant un certain temps. C'est la muse-gueule. Pendant un certain temps, c'est la muse. Par rapport à la béatitude, par rapport à la finalité, ça dure un certain temps. C'est très important pour des jeunes, parce que ce sont des pistes qui peuvent aider avant de s'engager, avant d'avoir un choix capable d'engager toute la vie. Il faut pouvoir ça. Mais quand vous dites prenez un peu de recul, on vous met dans une voie sans issue. Faites ça pendant 2 ans. Peut-être qu'après, vous verrez plus clair. On sait très bien que c'est une voie sans issue. Et si la personne reste dans cette voie sans issue, parce qu'elle est incapable de mûrir pour un choix personnel, vous dites, c'est peut-être la seule solution. Alors, voyez, vous retrouvez cette grande idée d'Aristote. Qu'il y a des quantités de personnes qui sont incapables de découvrir la finalité. Aristote le dit, hein. Et saint Thomas le dit. Il y a des quantités de personnes dont leur finalité sera un service. Donc, ils sont des esclaves de la finalité. Évidemment, on ne le dit pas. Mais entre nous, on peut le dire. Ils ne découvriront vraiment leur finalité qu'en étant au service de quelqu'un de plus grand qu'eux. Qui lui aura découvert sa finalité. Elle risquera une amitié progressivement, qui sera très beau. Parce que c'est vrai, des quantités d'hommes trouvent leur finalité dans le service. Si on est chrétien, c'est ça qui est admirable dans la vie chrétienne. Si on est chrétien, le service finalise. Servir Dieu, c'est régner. C'est extraordinaire. Dans la vie chrétienne, le service finalise dans la charité fraternelle. Dans la vie chrétienne, oui. Dans la vie chrétienne, une infirmière peut finaliser sa vie dans la charité fraternelle. Elle peut. Elle comprendra très vite que cette charité fraternelle demande de découvrir le Christ. Des pauvres, vous en aurez toujours, mais moi. Et cette parole reste vraie. Des pauvres, vous en aurez toujours, mais moi. Alors, si vous ne cherchez que des pauvres, et que vous ne découvrez jamais Jésus, vous aurez ces bons chrétiens, de très bons serviteurs. On leur donnerait de décoration. C'est très, très bien. Mais il leur manquera un certain épanouissement parce qu'ils n'ont pas découvert l'horizon de la contemplation. Je crois qu'il faut bien voir ça avec beaucoup de lumière. Voyez. Qu'est-ce que c'est que la personne? La personne implique cette autonomie, implique ce regard sur le futur, implique cette sécurité, ce qu'on disait tout à l'heure au point de vue psychologique, c'est très vrai et faux ça. Et quand il n'y a pas la finalité, on ne peut pas avoir d'autonomie. Vous découvrez l'autonomie vécue que lorsque vous avez découvert la finalité. Vous découvrez une vraie sécurité que lorsque vous avez découvert la finalité. Et vous avez un certain amour de vous, la valorisation, que si vous avez découvert la finalité. Alors vous découvrez cette fidélité. Et cette fidélité permet de continuer d'absorber des quantités de difficultés. Les luttes, tant pis, on sait très bien qu'on est en lutte tout le temps. Alors il y a des pépins, oui, il y en a, mais sans bonne importance. On continue sa route, il vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu avec un bras en moins qu'avec les deux bras en dehors de la finalité. Alors vous avez un bras en moins, mais vous êtes finalisé, vous êtes fidèle, c'est merveilleux. Parce que c'est ça l'évangile, c'est ça, c'est concrètement c'est ça. C'est qu'on doit accepter d'être manchot, on doit accepter d'être pauvre, on doit accepter d'avoir un nez en moins, sans aucune espèce d'importance. On est finalisé. Alors on est une personne. Tandis que si vous n'êtes pas finalisé d'avoir un nez en moins, c'est très gênant. Parce que vous ne séduisez plus. C'est vrai, c'est difficile de séduire quand on a le nez coupé. Très difficile. Donc voyez dans quel sens il faut voir. Eh bien, la recherche de la vérité, c'est-à-dire la recherche scientifique de la vérité, ne finalise pas. S'il n'y a pas la sagesse. Alors, la recherche de la vérité, la recherche scientifique de la vérité, voyez, être un fonctionnaire de la recherche scientifique. Pour certains, c'est l'idéal. Parce que, quand même, au point de vue pécuniaire, c'est un peu assuré. Déjà bien. Mais c'est pas ça qui finalise. C'est très bien, il en faut, il en faut. Mais il faut que, au-delà de cette recherche de la vérité, il y ait une recherche d'une vraie philosophie, d'une sagesse. D'une contemplation. Alors, si vous êtes chrétien, bah, très bien, le chrétien il sert de tout, de tout. Chercher la vérité psychologique, hein, être toute sa vie à se demander si il y a une loi psychologique entre tel ou tel aspect. Nous connaissons tous des chercheurs au niveau psychologique, toute leur vie ils cherchent, ils ne découvrent rien, ils n'ont aucune espèce d'importance. Parce que leur finalité est d'autre part. Mais si leur finalité était là, ce serait de l'amertume. Après, le nombre de chercheurs qu'il y a dans l'humanité, hein, et le peu de découvertes qu'on fait. Donc il y en a très peu qui découvrent. Mais la prédestination dans l'ordre de la recherche scientifique, c'est pas très drôle. Hein. Ce sera un très bon exemple à donner. Saint Paul prenait les cours, la course et les athlètes, nous on prendrait la recherche scientifique. Et le prix Nobel à la clé. Alors, posons-nous la question maintenant, après le point de vue. La troisième dimension, le facere. Le facere. Le travail. Est-ce que le travail fait qu'on acquiert un type de personne humaine par le travail? Vous voyez, la réponse est tout de suite donnée. Hein. Le travail est nécessaire à la vie de l'homme. Plus nécessaire encore que la politique. Si on ne sait pas travailler, on sera malheureux toute sa vie. Condition sine qua non du bonheur. Hein. Acquérir des mœurs de travailleurs, au plan intellectuel, au plan manuel, peu importe. Il faut acquérir des mœurs de travailleurs. Ça, c'est très très important. Si on a une vie d'ermite, il faut acquérir des mœurs de travailleurs. Si on a une vie communautaire, il faut acquérir des mœurs de travailleurs. Le travail est une condition sine qua non pour découvrir la finalité. Parce que la finalité, on la découvre. Elle ne nous tombe pas toute cuite. On la découvre et donc il faut le travail. Et il faut maintenir ces mœurs de travailleurs. Et le travail a cette chose merveilleuse, on le sait psychologiquement, ça maintient l'équilibre. Quelqu'un qui perd toute sa journée, uniquement, en se lamentant, mais il ne redécouvrira pas le bonheur. Il faut des mœurs de travailleurs, ça c'est tellement important. notre monde d'aujourd'hui, voyez. C'est un facteur essentiel. Faut pas croire qu'on convertit les gens en étant un dilettante. Non. Jusque 30 ans, les gens diront « comme il est gentil ». Mais c'est un dilettante. Vous ne convertirez les gens que quand ils couvriront en vous quelqu'un qui sait ce que c'est que le labeur et le travail. Il faut jamais hésiter aux gens de dire « eh bien, j'ai mon travail. J'ai du travail. » Ça les édifie bien plus que le dilettantisme. « Ah, j'ai tout mon temps pour vous. » Très très bien, vous pouvez dire ça de temps en temps. J'ai tout mon temps pour vous. Alors vous avez affaire à un frelon qui reviendra régulièrement manger tout le miel. Et c'est pas une solution, parce que vous cultivez les frelons. Faut pas cultiver les frelons, on n'a pas le droit. Le travail est absolument nécessaire, c'est essentiel à la personne. On n'est une personne humaine que s'il y a cette base. Vous voyez, je vous ai dit les vertus. Et bien maintenant, mettez au sous-sol le travail. Alors vous avez comme ça la personne qui s'édifie. Voilà, vous commencez à comprendre. L'homme autour du thé, ça fait partie, le thé est stigmatisé, c'est extraordinaire, non, ça... même si vous avez des choses géniales, même si vous avez des aptitudes extraordinaires, le travail est nécessaire. Si vous avez des aspirations extraordinaires, le travail est nécessaire. Donc, c'est le soubassement. Le travail va guérir des habitus. Mais le travail, vous comprenez, n'est pas la fin. Je ne vis pas pour travailler. Je vis pour découvrir ma finalité, adorer, contempler, aimer. Voilà la finalité humaine. Le travail, c'est le conditionnement. C'est vrai, ça. Je suis conditionné par mon travail. Regardez les mains d'un laboureur, d'un travailleur. C'est beau à voir. Regardez les mains d'un cuisinier. D'un pâtissier. Quelque chose de particulier. Regardez les mains d'un intellectuel. C'est encore très différent. C'est important de comprendre ce que c'est que le travail. C'est la transformation de l'univers par l'homme. Et le travail est ordonné à l'homme. Le travail conditionne. Je suis conditionné par mon travail. Et ça conditionne en sens très très fort. Ça conditionne mon intelligence. Ça conditionne mon corps, ma sensibilité. C'est la grande canalisation de l'imaginaire. Je crois qu'un homme qui est un travailleur a éduqué merveilleusement son imagination. C'est ça qui canalise l'imaginaire, le travail. Parce que quand vous travaillez bien, votre imaginaire se tait. Tandis que si vous travaillez plus, l'imaginaire reprend des puissances extraordinaires. Surtout si vous êtes pris affectivement à ce moment-là. Alors l'imaginaire, tandis que le travail, on ne peut pas éduquer directement l'imaginaire. Il n'y a pas d'habitus en l'imaginaire. Il n'y a pas d'habitus. L'imaginaire, c'est le domaine qui ne peut pas être éduqué. Inéducable, non escapax. Vous ne pouvez pas baptiser l'imaginaire. Il n'est ni chrétien, ni païen. Il est anarchique. C'est le domaine de l'anarchie dans toute sa splendeur. Vous ne pouvez pas l'éduquer directement, mais vous l'éduquez par le travail. Et par le travail, alors vous acquérez ses mœurs, le travailleur. Et ça, ça se reconnaît toujours. Les travailleurs se reconnaissent entre eux. C'est le conditionnement humain. Un conditionnement qui habitue à des habitudes. Alors, vous voyez, c'est là où le Saint-Père, dans son encyclique sur le travail, a cette expression si forte. Il faudrait une vertu du travailleur, l'ardeur au travail. C'est très beau, ça. Parce qu'il n'y a pas de vertu. Il n'y a pas de vertu. Les vertus sont au niveau de la durée. Volontaire, la volonté s'applique au travail. Et cette volonté d'application au travail nous donne des mœurs au travailleur. Et c'est vrai que c'est l'ardeur. Quelqu'un qui travaille mollement ne travaille pas humainement. Je crois que dans le travail, on doit toujours être ardent. C'est le propre du travail. Celui qui est comme dans le banquet de Platon, Agathon, assis mollement sur un fauteuil. Il y a des travailleurs comme ça, ils sont toujours assis mollement sur un fauteuil. Alors on a envie de prendre le fauteuil par derrière et de l'enlever, de dire, pour qu'ils comprennent que le travail implique une ardeur. On est ardent dans le travail. Ça, la volonté d'application. Le travail donne des habitudes. facilité. On travaille sans perte de temps. C'est pas une méthode, c'est quelque chose qu'on a acquis du dedans. Ça, c'est important, mais ça ne touche pas à la finalité. Ça permet uniquement d'aller plus vite. C'est très heureux, ça. C'est très important d'acquérir ça. On n'a rien de temps, ça se fait. Tandis que quand on n'a pas beaucoup d'habileté, on reste inexpérimenté. Et quand on est inexpérimenté, ça prouve qu'on n'a pas beaucoup travaillé. Parce qu'il y a des domaines dans lesquels on doit acquérir cette habileté. Pas dans tous. C'est impossible dans tous. Quelquefois. Il y a des ouvriers à tout faire. C'est merveilleux. Mais ordinairement, au moins dans un domaine. Dans un domaine, il faut arriver à des ouvriers qualifiés. Et à des ouvriers qualifiés, c'est une certaine virtuosité qui est bonne, qui est nécessaire. Alors, en plus, il y a l'habitus d'art qui n'est pas la virtuosité. L'habitus d'art est ordonné à l'œuvre. À l'œuvre agréable, belle. Agréable à voir, belle à voir, l'œuvre de l'artiste. Alors c'est là où se pose la question. Est-ce que l'habitus d'art, qu'il s'agisse de la peinture, qu'il s'agisse de l'architecture, qu'il s'agisse de la sculpture, qu'il s'agisse de la danse, est-ce que l'habitus d'art, ou l'habitus d'art du menuisier, artisanal. Est-ce que l'habitus d'art structure une personne? Structure une personne, un type de personne humaine? Mais c'est une question très importante, celle-là. Parce qu'elle vous sera posée, surtout dans notre monde d'aujourd'hui. Très bien de s'intéresser à l'art. Il faut savoir si l'habitus d'art qu'on acquiert progressivement aboutit à une personne. Psychologiquement parlant, il est bien évident qu'il y a une personnalité artistique. Ça se voit tout de suite. Ceux qui sont de purs philistins dans ce domaine-là, et ceux qui sont vrais. Vous voyez bien, un artiste, ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite. Immédiatement. Voilà. Le type qui est là. Ça, c'est personnalité psychologique. Un pareil monial. Il y en avait un qui était venu comme ça un jour. Et ça se voyait. C'était gros. Ça se voyait immédiatement. Il y a tous les autres. C'était visible. Si on avait un petit peu l'œil attentif, c'est très bien au point de vue psychologique, je suis tout à fait d'accord. Il y a une personnalité artistique plus ou moins profonde, plus ou moins artificielle, plus ou moins mondaine, plus ou moins surfaite, plus ou moins vraie. Vous pouvez mettre tous les attributs que vous voulez. Vous êtes au niveau d'une personnalité psychologique. C'est-à-dire une orientation. La vie est polarisée dans un sens. Et c'est propre de l'artiste, il regarde tout dans un sens. Polarisé. C'est déjà quelque chose. Est-ce que vous pouvez dire qu'au point de vue philosophique, il y a une personne de l'artiste? Personne humaine de l'artiste? C'est très très difficile à répondre. Il faut essayer de répondre. Même si on ne peut pas répondre d'une façon catégorique. Mais c'est tout le domaine du beau. Il y a une certaine contemplation artistique. C'est sûr. Mais ce n'est pas la contemplation tout court. Le beau ne finalise pas. Le beau séduit. Et ça, je crois qu'il faut bien voir la différence entre les deux. Le beau séduit. voyez au moins une ou deux œuvres belles. Dans un milieu pauvre, les pauvres ont ça, ont ce sens-là. Et je crois que nous devons avoir ce sens-là. Enfin, au moins une ou deux œuvres belles, pas des quantités. Il peut y avoir une pauvreté sans pas tellement d'importance, mais qu'on puisse avoir de temps en temps quelque chose de beau. Au point de vue sculpture, au point de vue peinture, au point de vue musical, c'est nécessaire. Nécessaire. Il y a des hommes qui découvrent tout de suite la finalité contemplative, sans passer par le mot. Mais il y en a certains qui en ont besoin, voyez, comme l'amour d'amitié. Ils ont besoin de ce tremplin. Il faut le reconnaître. Certains en ont besoin. Alors, est-ce que l'art finalise, c'est essentiel à l'homme? Je ne crois qu'on ne peut pas dire que l'art finalise une vie. Même l'art chrétien, ça ne peut pas finaliser une vie. Pourquoi? Parce que l'œuvre est faite par l'artiste. Et l'œuvre ne finalise pas. Au sens absolu, puisque ça provient de l'artiste, c'est le fruit de sa contemplation, c'est le fruit de son inspiration, le fruit de son travail. Si c'est le fruit, ça le prolonge, ça permet une extension, ça lui donne un conditionnement très fort. C'est l'épanouissement le plus parfait du conditionnement. Donc ça touche quelque chose de très important. C'est très important. Et je ne crois pas qu'on puisse dire que l'art finalise. Parce que l'art est terminé à l'œuvre. Alors, si l'art est terminé à l'œuvre, pas finalisé. Même si je contemple cette œuvre, la contemplation artistique est une contemplation qui n'aboutit pas à ce lien personnel, mais c'est un tremplin. Ça peut être une disposition merveilleuse. De sorte que je crois qu'on ne peut pas dire que l'habitus d'art, voyons que la personne humaine implique un compte. personne.